Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons ce matin la série concernant l'importance de la rédemption. Nous arrivons à l'étude numéro 28 et notre titre ce matin sera Instruction aux nouveaux convertis. Ceci est la suite de l'étude numéro 27. Instruction aux nouveaux convertis, deuxième partie. Jésus a dit « Paix, mes agneaux ». Saint Jean, chapitre 21, verset 15. Premièrement, quelques autres points sur lesquels les nouveaux convertis doivent être instruits. Deuxièmement, la manière dont l'Église doit se conduire à leur égard. Et troisièmement, les résultats d'une instruction défectueuse. Donc, premièrement, il y a d'autres instructions que nous devons donner aux nouveaux convertis. Il est d'une grande importance que les nouveaux convertis soient de bonne heure, vraiment rapidement mis à même de comprendre en quoi consiste la piété. Quoi ? Ils sont convertis, dites-vous ? Et ils ne savent pas en quoi consiste la piété ? Alors je réponds, ils le sauraient s'ils n'avaient pas eu d'autres instructions que celles qu'on tire de la Sainte Bible. La piété ne consiste pas en connaissance doctrinale uniquement. La connaissance est essentielle à la piété, mais ce n'est pas la piété. Le diable, il a une connaissance doctrinale, croyez-moi, mais il n'a point de piété. Un homme peut avoir une connaissance très étendue sans avoir une parcelle de piété, car un progrès dans la connaissance doctrinale n'indique pas un progrès dans la piété. Il faut donc leur enseigner que la piété n'est pas une substance. Elle n'est ni une racine, ni un rejet, ni une semence, ni autre chose qui ferait partie de l'esprit lui-même. Les gens en parlent souvent comme si c'était quelque chose de caché dans l'esprit, semblable à une étincelle qui couve sous la cendre. Elle ne paraît pas, ne produit aucun effet, mais elle vit et agit dès qu'on la découvre. De même, il y a des personnes qui pensent qu'elles peuvent avoir de la piété comme quelque chose qui demeure en elles, comme ça, automatiquement, quoique elles ne la manifestent pas par leur obéissance à Dieu. Mais il faut leur enseigner que telle n'est pas la nature de la piété. Il faut leur enseigner que la religion ne consiste pas en transport, en extase ou en exaltation de sentiments. Là où il y a de la piété, il peut y avoir beaucoup de cela, mais que l'on comprenne bien que ce ne sont là que des émotions involontaires, même là où il n'y a aucune piété. Elles peuvent être le simple fruit de l'imagination sans aucun vrai sentiment religieux. Des personnes ne peuvent éprouver ces émotions à un degré tel qu'elles s'évanouissent réellement d'extase sans avoir aucune piété. J'ai connu une personne qui était presque transportée par la simple considération des attributs de Dieu que la nature nous offre, et sa puissance et sa sagesse, déployées dans les cieux étoilés. Cependant, voyez-vous, elle n'avait aucune piété malgré toutes ces manifestations. Donc la piété, c'est vraiment l'obéissance à Dieu. Je dirais, c'est uniquement l'obéissance à Dieu. C'est la soumission volontaire de l'âme et de l'esprit à sa volonté. La piété ne consiste pas non plus à aller à des cultes et à lire la Bible, à prier ou à accomplir tout ce qu'on est convenu d'appeler les devoirs religieux. L'expression « devoir religieux » devrait être rayée du vocabulaire des nouveaux convertis, car ces actes ne sont pas de la piété. Beaucoup de gens deviennent très stricts dans l'accomplissement des choses qu'ils appellent des devoirs religieux. Et ils s'imaginent être pieux, tandis qu'ils négligent les devoirs de la vie qui, en réalité, constitue une vie de piété. La prière, elle peut être une expression ou un acte de piété comme elle peut ne pas l'être. Aller à l'église ou à une réunion de prière peut être considéré comme un moyen, comme un acte ou une expression de sentiments pieux, mais l'accomplissement de ses devoirs ne fait pas d'un homme un chrétien, et l'on peut être très zélé sur ces points-là sans avoir un atome de piété. Si l'on n'apprend pas aux nouveaux convertis à faire cette distinction, ils pourront croire qu'il y a quelque chose de particulier dans ce qu'on appelle devoir religieux, et parce que ils s'y adonnent beaucoup, ils vont s'estimer pieux, quoique ils soient encore en arrière quant à l'honnêteté, la fidélité, la ponctualité, la maîtrise de soi et tout ce qu'ils ont convenu d'appeler leur devoir ordinaire. Ils peuvent être très exacts à payer la dîme de la nette, de la menthe et du cumin, selon saint Matthieu chapitre 23 verset 23, et de négliger les principaux points de la loi, la justice et l'amour de Dieu. La piété ne consiste donc pas dans le désir simplement de bien faire. Les désirs qui n'aboutissent pas à un choix et à une action ne sont pas vertueux, ils ne sont pas non plus nécessairement mauvais, ils peuvent naître involontairement de l'intelligence à la vue de certains objets, mais tant qu'ils ne produisent pas un acte de volonté, ils ne sont pas plus vertueux ou vicieux que le battement du pouls, excepté le cas où notre intention les aurait fait naître indirectement en nous plaçant volontairement dans des circonstances calculées pour les créer. Donc, le plus méchant homme, croyez-moi, du monde peut avoir, et c'est vrai, peut avoir un vif désir de sainteté. Et avez-vous jamais pensé? Il peut voir clairement que la sainteté est uniquement et indispensable, un indispensable moyen de bonheur. Hein? Et dès qu'il regarde la sainteté comme un moyen d'être heureux, tout naturellement, il la désire, évidemment. Il est à certains, il est donc, on peut dire, à craindre plutôt, qu'une foule de gens ne se séduisent eux-mêmes, ça existe, en supposant que le désir de sainteté comme moyen d'être heureux est simplement de la piété. Sans aucun doute, beaucoup de gens se donnent du crédit à eux-mêmes du fait qu'ils ont des désirs, quoique ceux-ci ne les aient jamais amenés à choisir ce qui est juste et à le faire. Ils éprouvent le désir de faire leur devoir, mais ne choisissent pas de le faire parce que, après tout, ils ont un désir plus grand encore de ne pas le faire. Pour avoir de la valeur devant Dieu, une action ou un désir doit être un acte de la volonté. Les gens parlent souvent là-dessus de la manière la plus absurde, comme si leur désir avait quelque chose de bon alors qu'il reste à l'état de simple désir. Je pense que je désire ceci ou je désire cela. Mais le faites-vous? Oh non, mais j'en ai souvent le désir. Eh bien, c'est là de l'athéisme pratique. Quelque désir que l'on ait, s'il n'amène point un choix et une action réelle, il ne vaut absolument rien. Aucun degré de désir n'est vertueux en lui-même. Si l'on pouvait faire entrer cette idée dans les esprits et l'y river à fond, elle anéantirait les espérances de la moitié des membres de l'Église qui vivent de leurs bons désirs, tout en ne faisant rien, absolument rien, pour Dieu. Il faut qu'ils comprennent que rien de ce qui est, égoïste, c'est ce qu'il faut dire. Je répète, il faut qu'ils comprennent que rien de ce qui est simplement égoïste représente de la piété. Quel que soit leur désir, quel que soit leur choix et leur action, si les motifs en sont égoïstes, il n'y a point, mais absolument point de piété. Si son mobile est égoïste, un homme peut aussi bien pécher en priant et en lisant la Bible ou en allant à une réunion religieuse. Supposez qu'un homme prie seulement en vue de son propre bonheur. C'est, je peux dire, là. Est-ce vraiment là de la piété si cet homme ou cette femme prie uniquement pour son propre bonheur? Qu'est-ce d'autre sinon d'essayer de faire de Dieu son tout-puissant serviteur? C'est un essai de grande spéculation de mettre à contribution l'univers, Dieu et toutes choses pour se rendre heureux. Cela est si loin, croyez-moi, si loin d'être de la piété, que c'est en réalité le suprême degré de la perversité. Rien n'est acceptable pour Dieu comme étant de la piété si ce n'est pas accompli de cœur pour lui plaire. Aucune action extérieure n'a quoi que ce soit de bon ou que Dieu approuve, à moins d'être accompli sous l'inspiration d'un mobile juste et du fond du cœur. On devrait enseigner clairement aux jeunes convertis que toute la religion consiste à obéir de cœur à Dieu. Tout ce qui est saint, tout ce qui est aimable aux yeux de Dieu, tout ce qu'on appelle piété, consiste en une obéissance volontaire du fond du cœur à la volonté de Dieu. Je devrais répéter ce que je viens de dire parce que c'est très important. Donc, je répète, rien n'est acceptable pour Dieu comme étant de la piété si ce n'est pas accompli de cœur pour lui plaire. Aucune action extérieure n'a quoi que ce soit de bon ou que Dieu approuve, à moins d'être accompli sous l'inspiration d'un mobile juste et du fond du cœur. On devrait enseigner donc clairement aux jeunes convertis que toute la religion consiste à obéir de cœur à Dieu. Tout ce qui est saint, tout ce qui est aimable aux yeux de Dieu, tout ce qu'on appelle piété, consiste en une obéissance volontaire du fond du cœur à la volonté de Dieu. On doit donc apprendre aux nouveaux convertis que le renoncement à soi-même est un des traits fondamentaux de l'Évangile. Ils devraient comprendre qu'ils ne sont pas pieux du tout, aussi longtemps qu'ils ne veulent pas renoncer à eux-mêmes pour Christ. Il y a bien peu de renoncement dans l'Église, et la raison en est qu'on perd beaucoup de vue ce devoir dans l'instruction donnée aux nouveaux convertis. Combien rarement on leur dit que le renoncement à soi est le trait principal du christianisme. S'agit-il d'une œuvre de bienfaisance qu'il est rare de voir les pasteurs ou les collecteurs demander aux chrétiens de renoncer à eux-mêmes dans l'intérêt de l'œuvre qu'ils proposent? Ils leur demanderont seulement de donner ce qu'ils peuvent mettre, on peut dire, ce qu'ils peuvent mettre à part, sans absolument aucun inconvénient. En d'autres termes, c'est d'offrir au Seigneur des sacrifices qui ne leur coûtent absolument rien. Quelle abomination! Ils demandent le superflu, ce dont on n'a pas besoin, voyez-vous, ce qu'on peut donner sans être aucunement gêné. Il n'y a donc point de piété, il me semble, dans pareil don. Un homme peut donner 100 000 euros pour une œuvre sans qu'il y ait là une véritable piété, si ce don ne le prive de absolument rien, et un pareil acte n'est pas non plus un renoncement à soi-même. Jésus-Christ a renoncé, oh oui, il a renoncé à lui-même pour sauver les pécheurs. Le Père a renoncé à lui-même en livrant son Fils bien-aimé à la mort pour nous, en nous épargnant et en usant de patience à notre égard, et cela malgré notre perversité. Le Saint-Esprit renonce à lui-même quand il condescend à lutter avec de pareils êtres souillés pour les amener à Dieu. Les anges, ils renoncent à eux-mêmes en veillant sur le monde. C'est en renonçant à eux-mêmes que les apôtres ont établi la religion chrétienne au mieux de nous. Et croyez-moi, c'était pas une petite affaire. Et nous pourrions, nous estimer chrétiens, vraiment, sans renoncer à nous-mêmes? Avons-nous vraiment le droit de nous appeler les disciples du Christ, les temples de l'Esprit-Saint, selon 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, et de dire que nous sommes en communion avec les apôtres quand, de fait, nous ne nous sommes jamais privés pour l'avancement du règne de Christ, de ce qui touche à notre bonheur personnel. Donc, chers amis, les nouveaux convertis doivent être amenés à voir qu'à moins de se livrer eux-mêmes à Dieu et d'être prêts à sacrifier leur vie et toute chose à Christ, ils n'ont point, absolument point, l'Esprit de Christ, ils ne sont point à lui. Notez Romains, chapitre 8, verset 9. Il faut donc leur enseigner ce que est vraiment la sanctification. Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Tout chrétien ne sait-il pas ce que est et représente la sanctification ? Non, beaucoup ne le savent absolument pas. Une foule de chrétiens se serait embarrassée de dire clairement ce que est la sanctification. Je ne sais pas si 1 sur 10 pourrait donner une réponse juste. Ils hésiteraient comme quand ils entreprennent de définir la piété. De même, ils parlent de la sanctification comme d'une espèce de nettoyage d'une souillure ou de l'élimination d'une impureté physique. Ou bien, ils en parlent comme si nos facultés étaient prolongées dans le péché et que la sanctification enlève les traces du péché. C'est pour cela qu'il y a des gens qui demandent la sanctification et qui pratiquent le péché, supposant évidemment que la sanctification est quelque chose qui précède l'obéissance. Or, la sanctification n'est point quelque chose qui précède l'obéissance ou un changement dans la nature ou dans la constitution de l'âme, mais la sanctification est l'obéissance et elle est progressive en ce sens qu'elle consiste à obéir à Dieu de plus en plus parfaitement. Je répète, la sanctification n'est point quelque chose qui précède l'obéissance ou un changement dans la nature ou dans la constitution de l'âme et de l'esprit, mais la sanctification, c'est l'obéissance et elle est progressive en ce sens qu'elle consiste à obéir à Dieu de plus en plus parfaitement. On doit apprendre aux nouveaux convertis ce que est la persévérance. On parle de la doctrine de la persévérance comme si elle était une foi en grâce, toujours en grâce, ou bien une foi converti ou en sûr pour être sûr d'aller au ciel. Je répète, on parle de la doctrine de la persévérance comme si elle était une foi en grâce, toujours en grâce, ou bien une foi converti, on est sûr à ce moment-là de pouvoir aller au ciel. Ça, c'est absolument faux. La vérité est que si un homme, et je dis une femme, c'est la même chose, est vraiment converti, il ou elle continuera à obéir à Dieu. Et comme conséquence, il ou elle ira certainement au ciel. Mais si un homme ou une femme à l'idée que parce qu'il ou elle est converti, il ira à cause de cela, sûrement, automatiquement au ciel, cet homme ou cette femme peut se tromper. Donc, si les chrétiens arrivaient à se rendre compte combien ils dépensent pour ce qui n'est que poison, il serait confondu. Beaucoup soutiennent énergiquement qu'ils ne peuvent pas se passer de ces stimulants, de ces poisons, et qu'ils ne peuvent pas les abandonner, non pas même pour sauver le monde de la damnation éternelle. Très souvent, si on discute avec eux, on les voit se fâcher aussitôt que l'argument commence à toucher leur conscience. Oh, combien de temps encore l'Église montrera-t-elle sa face hypocrite à la réunion des missions, priant Dieu pour sauver le monde, tandis qu'elle gaspille pour ses intempéries, on peut dire ses intempérances, 5 fois plus qu'elle donne pour sauver le monde. Quelques-uns peuvent penser que ce sont là de petites choses et que c'est au-dessous de la dignité de la chair de parler contre les spiritueux, contre le tabac, la drogue. Mais je vous dis que c'est une grande erreur de votre part si vous pensez que ce sont là de très petites choses alors qu'elles rendent l'Église odieuse aux yeux de Dieu en exhibant son hypocrisie et sa convoitise. Voici un homme qui prétend s'être donné, on peut dire, au service de Jésus-Christ, et il refuse de se priver d'une jouissance favorite. Et puis, il ira prier et il dira « Ô Seigneur, sauve le monde, que ton règne vienne. » Eh bien, je vous dis que c'est là de l'hypocrisie. De telles prières seraient-elles vraiment exaucées? S'ils ne veulent pas renoncer à eux-mêmes, je ne donnerai pas deux sous des prières de tous ces chrétiens-là. On doit enseigner aux chrétiens à avoir autant de piété dans toutes leurs affaires qu'ils en ont dans la prière ou quand ils vont à un culte. Ils doivent être aussi saints, aussi vigilants, recherchant avec autant de sincérité la gloire de Dieu, aussi intègres et sérieux dans toute leur occupation journalière que quand ils s'approchent du trône de la grâce. S'ils ne le sont pas, eh bien leur acte religieux, cet acte chrétien du dimanche, sera une abomination. On doit leur apprendre qu'il leur est nécessaire d'être aussi saints qu'ils pensent que leur pasteur devrait l'être. Longtemps a régné l'opinion que les pasteurs sont tenus d'être saints et de pratiquer le renoncement à soi-même, et ils y sont en effet tenus. Mais il est étrange de supposer que les pasteurs sont tenus d'être plus saints que tous les autres croyants. On serait choqué de voir un pasteur montrer de la légèreté, courir après la mode, se mettre en colère, vivre dans une maison luxueuse ou se promener en voiture de luxe. Oh, c'est épouvantable! Cela ne sied point à un pasteur, allons-nous dire. Quoi? Une femme de pasteur? Porter un tel chapeau luxueux ou ce châle de soie? Ah non! Mais on pense qu'il n'en est plus du tout de même quand il s'agit d'un laïc ou de sa femme. Cela n'offense absolument personne. Aux yeux de Dieu, elles ne sont pas plus mauvaises chez un pasteur que chez un laïc. Vous n'avez pas plus le droit qu'un pasteur de vous complaire dans la vanité, la folie et l'orgueil. Pouvez-vous aller au ciel sans être aucunement sanctifié? Pouvez-vous être saint sans vivre pour Dieu et sans tout faire pour sa gloire? J'ai entendu des hommes reconnus et très honorables reprocher au pasteur d'avoir 1800 euros par mois pour toute sa famille, tandis que eux-mêmes dépensent en réalité trois fois plus, si ce n'est pas davantage, pour l'entretien de leur famille que aucun pasteur ne pourrait jamais rêver. Que penserait-on d'un pasteur s'il menait le même train de vie que plusieurs chrétiens et anciens d'église de cette ville? Ah, tous diraient qu'il est hypocrite. Dépenser l'argent de Dieu pour satisfaire ses convoitises ou pour plaire au monde ou à sa famille est aussi bien une preuve d'hypocrisie chez un laïc que chez un pasteur. Voyez-vous ? aussi longtemps que cette opinion régnera, il n'y a aucun espoir à ce que l'Église fasse jamais beaucoup pour la gloire de Dieu ou pour la conversion du monde. Dieu a-t-il jamais dit « Vous, pasteurs, aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force » ou bien « Vous, pasteurs, faites tout pour la gloire de Dieu » Non, cela est dit, écoutez bien, cela est dit à tous les chrétiens également. Je répète, ce n'est pas seulement dit pour le pasteur, mais cela est dit à tous les chrétiens également. Celui qui tâche de s'exempter lui-même d'un devoir ou d'un renoncement, de la vigilance ou de la sobriété, ou s'en décharge sur les pasteurs, celui qui ose adopter pour lui-même un degré inférieur de vie sainte à celui qu'il pense normal pour un pasteur, celui-là est en grand danger d'hypocrisie et de payer le prix de sa folie. On doit enseigner à tout nouveau converti que s'il n'a pas pour but de vivre sans péché, il n'a pas encore commencé à être pieux. Qu'est-ce que la piété, sinon un amour sans limite pour Dieu et une intention ou disposition suprême du cœur à obéir à Dieu. Là où cela n'existe pas, il n'y a point de piété du tout. Et je le répète, qu'est-ce que la piété, sinon un amour sans limite pour Dieu et pour son Fils bien-aimé Jésus-Christ, et une intention ou disposition suprême du cœur à obéir à Dieu le Père et à Dieu le Fils. Là où cela n'existe pas, il n'y a point de piété du tout. On doit leur enseigner à faire luire leur lumière. Eh oui, si le nouveau converti ne fait pas briller sa lumière devant le monde, elle s'éteindra. S'il ne s'applique pas, s'il ne va pas de l'avant, s'efforçant d'éclairer ceux qui l'entourent, sa lumière s'éteindra et son âme sera bientôt dans les ténèbres. Quelquefois, les nouveaux convertis sont disposés à se tenir tranquilles et ne veulent rien faire en public jusqu'à ce qu'ils aient beaucoup de lumière et beaucoup de piété, mais ce n'est pas là la voie à suivre, pas du tout. Que le nouveau converti se serve de ce qu'il a, même si c'est très peu, et qu'il tienne cela élevé, courageusement et fidèlement, sa petite flamme, qu'elle soit là, qu'elle scintille, et alors, croyez-moi, Dieu en fera un flambeau resplendissant. Mais Dieu ne se mettra pas en peine pour maintenir une lumière que l'on veut absolument cacher. Voilà donc pourquoi tant de gens trouvent si peu de satisfaction dans la piété. Ils ne s'exercent pas à honorer Dieu. Ils concentrent si entièrement en eux-mêmes le peu dont ils jouissent que Dieu n'a aucune raison de répandre sur eux ses bénédictions et ses bienfaits. Il y en a qui voudraient tout recevoir automatiquement du Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, autrement, eh bien, tout simplement, je ne pourrai pas te servir. Il ferait mieux de dire, autrement, je ne veux pas te servir. On doit leur enseigner comment gagner les âmes à Christ. On doit surtout apprendre aux nouveaux convertis ce qu'ils ont à faire pour cela et comment le faire, puis leur montrer à vivre en vue de cela comme étant le premier et le grand but de leur vie. Ces personnes se sont converties et les voilà. Elles entrent dans l'église, puis on les laisse aller comme elles le faisaient auparavant. Elles ne font absolument rien et on leur enseigne à surtout rien faire pour Christ. Le seul changement qu'on trouve en elles, c'est qu'elles vont le dimanche matin un peu régulièrement au culte et laissent le pasteur les nourrir selon l'expression consacrée. Mais supposez qu'ils les nourrissent, mais elles ne croissent pas, elles ne grandissent pas, elles tiennent leur flamme cachée, car elles ne peuvent digérer faute d'exercice. Donc, elles deviennent des dyspeptiques spirituelles. J'essaye de redire cela. Ces personnes deviennent des dyspeptiques spirituelles. Oh, le grand but pour lequel les chrétiens ont été convertis et sont laissés dans ce monde, croyez-moi, c'est pour arracher les pécheurs au feu. S'ils ne le font pas, il vaudrait mieux pour eux être morts. Du reste, sans l'Esprit Saint et sans le zèle et la volonté de suivre le Seigneur, on est de toute façon des morts vivants. Et deuxièmement, comment l'Église doit se conduire à l'égard des nouveaux convertis? Les vieux chrétiens devraient être capables de donner aux nouveaux convertis beaucoup d'instructions et ils doivent la leur donner. Il est vrai cependant que la masse des chrétiens ne savent pas comment leur donner une bonne instruction et quand ils essayent de le faire, ils ne donnent que la mauvaise. L'Église doit être en mesure d'instruire ses enfants. Dès qu'elle les reçoit, elle doit être aussi empressée à leur apprendre à agir que les mères le font pour leurs petits-enfants. Les nouveaux convertis ne doivent pas être tenus à l'arrière-plan de l'Église, au dernier banc, tout au fond. Souvent, les vieux chrétiens les laissent à l'arrière-plan et les empêchent de prendre aucune part active au travail de l'Église, de peur qu'ils ne tombent dans l'orgueil spirituel. Ainsi, l'Église devient, on peut dire, une Église morte. Au contraire, le vrai moyen de les rendre et de les garder humbles, n'est-ce pas de les mettre à l'œuvre? C'est ainsi que Dieu restera avec eux, et tant que Dieu sera avec eux, lui prendra soin, croyez-moi, de leur humilité. Tenez-les constamment occupés des choses de Dieu. Alors l'Esprit de Dieu habitera en eux et ainsi ils resteront humbles par le procédé le plus efficace. L'Église doit veiller sur les nouveaux convertis et les prévenir des dangers comme une tendre mère veille sur ses jeunes enfants. Les nouveaux convertis ne connaissent pas du tout les dangers qui les entourent, les ruses du diable, les tentations du monde, la puissance de leurs propres passions et de leurs habitudes et des mille formes du danger. S'ils ne sont pas bien surveillés et avertis, ils s'y lanceront tout droit. L'Église doit donc veiller à tous les intérêts de ses nouveaux membres, savoir où ils en sont, quelles sont leurs habitudes, leurs tentations, leurs dangers, leurs privilèges, l'état spirituel de leur cœur et leur esprit de prière. Considérez l'anxiété d'une mère quand elle voit la pâleur couvrir le front de son petit enfant. Qu'as-tu, mon enfant ? As-tu mangé quelque chose qui ne te convenait pas ? As-tu pris froid ? Qu'est-ce qui te fait mal ? Oh, comme il en est autrement des enfants de l'Église, des agneaux dont le Seigneur lui a remis le soin. Hélas, au lieu de les retenir et d'en prendre soin, l'Église les laisse courir ça et là et se tirer d'affaire tout seul. Que dirions-nous d'une mère qui laisserait sciemment son enfant jouer sur le bord d'un précipice? Ne dirions-nous pas que si l'enfant venait à tomber et à se tuer, son sang retomberait sur la tête de sa mère? Quelle est donc grande la culpabilité de l'Église? Soyez doux et les reprenez si c'est nécessaire. Lorsque les chrétiens trouvent nécessaire de reprendre les nouveaux convertis, de les reprendre dans quelque chose qu'ils ont sans vouloir, mal fait, ils doivent être extrêmement prudents. Les nouveaux convertis devraient être surveillés fidèlement par les anciens membres de l'Église et quand ils commencent à perdre du terrain ou à s'écarter, on devrait les avertir aussitôt et, s'il est nécessaire, les reprendre, mais pas avec colère et tout ce qui va avec, mais de le faire vraiment avec amour. Mais le faire mal, cela est pire que ne pas le faire du tout. On le fait quelquefois sans précaution, c'est vrai, avec dureté ou avec un air de blâme. Signalez donc avec bonté aux nouveaux convertis ce qu'il y a à blâmer chez lui et qu'il ne le voit pas. Il n'est qu'un enfant, c'est pour ça qu'il ne le voit pas, et il ne sait que peu de choses sur la vie chrétienne, de sorte qu'il aura beaucoup à apprendre et beaucoup à réformer. Tout ce qui est défectueux dans son esprit, désagréable dans sa conduite ou négligé dans ses manières, tout ce qui peut entraver son utilité ou son influence de chrétien doit lui être signalé avec bonté. Ce devoir exige une grande sagesse. Les chrétiens doivent en faire un sujet de prière et de réflexion pour s'en acquitter de façon de façon à ne pas faire plus de mal que de bien. Si vous ne les reprenez que pour les choses qu'il n'a pas vues ou qu'il ne savait pas être déplacé, cela lui fera de la peine et le découragera totalement. Une telle instruction demande donc beaucoup d'à-propos. Il est souvent bien de le faire après avoir prié ensemble. Oui, après avoir prié les uns avec les autres ou après une bonne conversation sur des sujets religieux propres à lui faire sentir que vous l'aimez et que vous cherchez son bien et que vous désirez ardemment sa sanctification, son utilité et son bonheur. Alors, une simple allusion suffira souvent pour obtenir le résultat voulu. Vous pouvez suggérer que telle chose dans votre prière ou votre conduite en telle occasion ne m'a pas fait une bonne impression. Ne ferez-vous pas mieux d'y penser? Et peut-être jugerez-vous préférable d'en éviter le retour. Faites donc votre remarque, s'il vous plaît, avec tact, et vous aiderez ce jeune chrétien. Vous lui donnerez envie de continuer. Ne parlez point par derrière des fautes des nouveaux convertis, jamais. C'est une chose bien trop commune parmi les vieux chrétiens. Les nouveaux convertis finissent tôt ou tard à l'apprendre, et de tels rapports sont capables de détruire leur confiance en leurs frères aînés, de les attrister, de les décourager et de les soustraire peut-être à la bonne influence de l'Église. Et troisièmement, les résultats d'une instruction défectueuse. Oui, s'ils ne sont pas parfaitement instruits, les nouveaux convertis ne seront jamais solidement fondés sur des principes justes. S'ils possèdent des principes fondamentaux justes, ils adopteront une ligne de conduite dans tous les cas particuliers. Dans la formation du caractère chrétien, il faut établir des principes justes en tout et partout. Lisez la Bible et vous y verrez que Dieu enseigne des principes justes que nous pouvons appliquer dans les détails de manière à avoir une conduite juste. Chers amis, si les nouveaux convertis sont bien enseignés et bien formés, on les verra généralement prendre le bon parti dans toutes les questions importantes qui surgissent dans l'Église. Que ce soit au sujet des traités évangéliques, des missions, de l'école du dimanche ou de la tempérance, par exemple, que de chicanes, que d'objections, de résistance, que d'opposition que on a rencontré de la part des membres des églises. Alors, parcourez les églises, et là où les nouveaux convertis ont été bien enseignés, vous verrez que jamais eux ne font de difficultés, ne soulèvent d'objections ou ne suscitent des chicanes. Je n'hésite pas à imputer aux pasteurs et aux anciens le fait que tant de chrétiens doivent être traînés à la remorque pour être amenés à se ranger du bon côté dans toutes ces questions-là. Si tôt après leur conversion, on les avait bien établis sur les principes de l'Évangile, ils auraient vu comment les appliquer à tous ces sujets. Il est donc curieux de voir combien les nouveaux convertis sont prompts à se ranger du bon côté, quel que soit le sujet proposé. Voyez tout ce qu'ils sont disposés à faire pour la préparation des pasteurs, pour les missions ou pour les réformes morales. Si la masse des nouveaux convertis dans les derniers réveils avait été bien établie sur les principes de l'Évangile, vous l'auriez trouvé en eux, dans toutes les églises, qu'un cœur et qu'une âme. Il n'y aurait qu'un cœur, une âme, vis-à-vis de chacun de leurs obligations. Plutôt vis-à-vis de chacune de leurs obligations. Donc, que leur première éducation en fait de piété soit bonne, et vous aurez un corps de chrétiens sur lequel vous pourrez compter. Si cet enseignement avait été donné partout, combien plus d'énergie il y aurait eu dans tous ces grands mouvements pour le salut du monde. Si les nouveaux convertis ne sont pas convenablement instruits, ils rétrograderont inévitablement et leur vie déshonorera le christianisme. Avant de terminer notre étude, j'aimerais vous dire que l'Église est vraiment coupable d'avoir dans le passé négligé l'éducation religieuse des nouveaux convertis. Au lieu de les engager à devenir des chrétiens actifs, les églises ont généralement agi comme ne sachant comment et à quoi les employer. Elles ont agi comme une mère qui a plusieurs filles et qui, ne sachant pas les faire travailler, les laisse grandir dans la paresse, l'ignorance, l'inutilité, méprisée et prête à devenir la proie du premier mauvais sujet venu. Les nouveaux convertis doivent être éduqués à travailler avec autant de soin que les jeunes recrues de l'armée. Supposez qu'un capitaine dans une armée ait sa compagnie enrôlée et que alors il ne prenne pas plus de peine pour instruire, exercer et discipliner ses soldats que beaucoup de pasteurs pour exercer et faire avancer les nouveaux convertis, eh bien l'ennemi se rirait d'une telle armée. Appeler de telles recrues des soldats, s'agit-il d'un service actif? Ils ne savent ni ce qu'ils ont à faire, ni comment ils doivent le faire. Ordonner la charge, eh bien, comment se comporte-t-il? Une telle armée ressemble à l'Église qui ne forme pas ses jeunes convertis. Ils n'ont aucune réelle confiance ni en leur chef, ni en leurs camarades, ni en eux-mêmes. Et dès lors, au premier choc de la bataille, ils se dispersent. Vous voyez l'Église d'aujourd'hui, le pasteur ne s'entendent, on peut dire les pasteurs, Les pasteurs, souvent, ne s'entendent pas sur ce qu'il y a à faire. Et beaucoup d'entre eux, parfois, se querellent avec leurs frères sur, par exemple, sur les nouvelles mesures à prendre ou autre chose. Quant aux simples membres, ils ne peuvent avoir de confiance en voyant les chefs pareillement divisés. Et s'ils essayent de faire quelque chose, hélas, quelle ignorance, quelle maladresse, quel désaccord et quelle faiblesse, quelle œuvre, on peut dire, pitoyable. Il ne peut qu'en être ainsi jusqu'à ce que l'Église forme ses nouveaux convertis en chrétiens intelligents, zélés, simples de cœur, dévoués et actifs. Le but est d'apprendre aux chrétiens déboués à faire quoi ? À faire ce que toute Église aurait depuis longtemps dû être exercée à faire, à savoir comment prier, comment parler avec les personnes du salut de leur âme et comment agir dans les réunions, comment agir avec ceux qui recherchent le salut et, bien entendu, comment sauver des âmes. L'Église s'est entièrement méprisée dans la manière dont elle doit être sanctifiée. Trop longtemps, on a essayé de sanctifier l'Église sans rien trouver à faire à ses membres. Mais la sainteté consiste surtout à obéir à Dieu. Et la sanctification, en tant que marche progressive, consiste à lui obéir de plus en plus parfaitement. Or, le moyen de favoriser la sanctification dans l'Église, c'est de donner à chacun une activité. Voyez ces grandes églises de 100 ou 200 membres. Ils ont un pasteur pour les nourrir dimanche après dimanche. Ils sont si nombreux que la plus grande partie n'a rien à faire et n'a jamais été exercée à faire des efforts directs pour le salut des âmes. C'est donc ainsi qu'ils s'attendent à être sanctifiés et préparés pour le ciel. Ils ne deviendront jamais, jamais saints en étant ainsi dans l'inactivité. Ce n'est pas là la voie que Dieu a établie. Jésus-Christ a fait de son peuple ses collaborateurs pour sauver les pécheurs parce que la sanctification consiste à faire les choses qu'exige cette œuvre de salut. Une des raisons pour lesquelles il n'a pas employé les anges pour cette œuvre, il aurait pu, et qu'il ne l'accomplit pas dans l'esprit des hommes par une révélation directe de la vérité, c'est qu'il est nécessaire, comme moyen de sanctification, que l'Église sympathise avec Christ dans ses sentiments et dans ses travaux pour sauver les pécheurs. Il faut qu'elle entre toute entière dans cette voie avant que le monde puisse être converti. Quand viendra le jour où l'ensemble des chrétiens aura conscience de ce qu'ils sont ici-bas comme un corps de missionnaires et que quand ils vivront et travailleront en conséquence, alors sera prêt aussi le jour de la rédemption de l'humanité. Chers chrétiens, si tu ne peux pas aller travailler au loin. Pourquoi n'es-tu pas missionnaire dans ta famille? Si tu es trop faible pour quitter ta chambre, ce qui n'est pas ta faute, eh bien, essaye d'être missionnaire là, autour de toi, où tu es. Combien as-tu appelé les proches et tes enfants inconvertis, les as-tu appelés? Et essaye d'être pour eux un missionnaire. Pense à ton docteur. Oui, ton docteur qui peut-être s'emploie à sauver ton corps. Tu reçois ses soins et tu ne lui donnes pas en retour la plus grande chose qui soit en ton pouvoir. Oui, l'espérance de l'Église, elle est dans les nouveaux convertis. Nous voyons quelle responsabilité pèse sur les pasteurs et sur les anciens. Et je peux vous dire, chers amis, et sur tous ceux qui peuvent aider à former les nouveaux convertis. Combien il est triste de voir des multitudes de nouveaux convertis dont on s'occupe si peu qu'au bout d'une année, on ne les distingue plus du reste de l'Église. Cette réaction dont on parle tant après un réveil, comme si une réaction était l'effet nécessaire d'un réveil, cette réaction ne viendra jamais et les nouveaux convertis ne rétrograderaient jamais si l'Église était fidèle à s'occuper de leur instruction. S'ils sont vraiment, vraiment convertis, on peut faire d'eux des chrétiens accomplis et surtout actifs. S'ils ne le sont pas, croyez-moi, c'est à l'Église que Jésus-Christ en demandera compte un jour. Chers amis, nous allons terminer, si vous le voulez bien, par la prière. La prochaine étude numéro 29 aura comme titre « Qu'un chrétien soit déchu ». Il est dit dans le livre des Proverbes, le chrétien déchu de cœur sera rassasié de ses voies. Chers amis, nous allons maintenant donc terminer par la prière. Avant, je voudrais vous dire quelques strophes d'un très ancien cantique. Ô Seigneur, Maître suprême et de la terre et des cieux, ô toi qui veux que je t'aime afin que je sois heureux, ô Jésus, ô roi de gloire, prosterné devant ta croix, je veux bénir ta victoire et suivre partout ta voie. Sur tes pas, régler ma route, aller partout où tu vas, imposer silence au doute, en m'appuyant sur ton bras, jusqu'au bout de ma carrière, vaincre le mal chaque jour. Voilà, Seigneur, ma prière qu'exaucera ton amour. Prions. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu, de ce que tu nous as amenés en paix durant cette journée. Elle a été remplie de tes bienfaits Et nous, Seigneur, qu'avons-nous fait pour toi? Qu'avons-nous fait pour glorifier ton saint nom et pour rendre témoignage à l'amour de notre Sauveur? Quelle pensée solennelle que celle des journées qui s'écoulent ainsi, de ces heures qui nous échappent et dont nous ne retrouverons pas un instant, et combien elles seraient faites pour nous troubler si nous ne pouvions sans cesse nous approcher de toi par Jésus-Christ. Enseigne-nous, Seigneur, à régler notre temps à l'emploi de nos journées, que chaque jour, notre première pensée soit de nous mettre en ta présence, afin que tu nous montres toi-même ce que nous devons faire. Qu'à ton exemple, ô Jésus, nous allions de lieu en lieu en faisant le bien, et qu'il nous soit donné dans l'humilité qui convient à de pauvres pécheurs achetés par pure grâce, de faire luire notre lumière devant les hommes à la gloire de Dieu et de répandre autour de nous la bonne odeur de Christ. Ô notre Dieu, bénis-nous ainsi que tu as les enfants qui se soutiennent et s'encouragent dans le bien, et que l'amour du Sauveur crucifié unisse, oui, unisse tous ceux qui se réclament de lui et s'est appuyé sur lui, sur notre Sauveur, notre Seigneur bien-aimé, que nous nous présentons devant toi. Amen. Amen. Et, chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à toutes ces études. Et à demain matin, à nouveau, Dieu voulant, voilà déjà en dehors de la fenêtre, les ouvriers avec toutes leurs machines bruyantes sont déjà à l'œuvre. Donc c'était important que je commence très tôt avant que toutes ces machines nous empêchent de pouvoir écouter ce que j'avais à dire. À demain matin, à bientôt. Soyez bénis. Au revoir.